Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Au programme ce soir, cette petite révolution dans la fonction publique. Plus de 40% des agents sont désormais en télétravail, des ordinateurs leur ont été commandés. Alors fonctionnaire à la maison, mode d'emploi, on posera la question à 18h20 à la ministre en charge de la fonction publique, Amélie de Montchalin. 18h30, le débat des grandes voix du mercredi, le projet de loi contre le séparatisme, ça y est enfin prêt. Un nouveau délit va voir le jour contre la haine en ligne, on en parlera. 19h15, dans le Club des idées, deux invités exceptionnels. La productrice Mélissa Thorio, qui viendra nous présenter son documentaire Choc contre la maltraitance des enfants, diffusé ce soir sur France 2. C'est un film très fort. Et puis, grand entretien à suivre avec François Bayrou, sa vision pour la France, déconfinement, lien social, insécurité, et que nous prépare-t-il pour les années à venir, lui qui est maintenant haut commissaire au plan. Il sera avec nous à partir de 19h20. Mais d'abord le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes sur Europe 1.
Il peut y avoir une adaptation du confinement à partir du 1er décembre ou des jours qui l'entourent. Mais nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On en est même loin.
Surtout, ne pas aller trop vite. Si tout va bien, à partir du 1er décembre, les mesures restrictives seront progressivement levées. Mais pas question de retrouver la vie d'avant. Le gouvernement prépare les esprits à un déconfinement par palier.
Oui, tandis que le ministre de l'économie demande lui aux distributeurs de décaler l'opération promotionnelle du Black Friday prévue le 27 novembre.
Les parents d'Alexia Daval face aux meurtriers de leur fille. Après le père, c'est la mère de la jeune femme qui a pris la parole aujourd'hui devant les assises de la Haute-Saône.
Le Boeing 737 Max va enfin pouvoir reprendre les airs. L'aviation civile américaine lève donc l'interdiction de vol qui frappait cet appareil, cloué au sol depuis un an et demi maintenant, suite à plusieurs accidents.
Et puis l'euro en ligne de mire pour les Bleus du foot qui seront favoris de cette compétition, un statut pas toujours facile. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,52% à 5 511 points.
La tendance météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Un peu plus agité le temps demain et plus frais aussi.
Oui, avec des températures qui redeviennent effectivement de saison. Va falloir ressortir les gilets. Dans le ciel, le passage d'une perturbation apporte nuages averses et surtout beaucoup de vent. On attend des rafales jusqu'à 150 km/h. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Officiellement, pas question de parler de déconfinement, plutôt de levée progressive des restrictions à partir du 1er décembre, encore une fois, si d'ici là les choses continuent de s'améliorer d'un point de vue sanitaire.
Le gouvernement échaudé prend un maximum de précautions pour évoquer l'après, à l'image de son porte-parole, Gabriel Attal.
Je veux être très clair, il peut y avoir une adaptation du confinement à partir du 1er décembre ou des jours qui l'entourent. Mais nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On en est même loin. On parle d'une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre, si la situation sanitaire nous le permet. Je crois avoir insisté sur le fait que nous n'avons pas gagné la bataille et sur le fait que relâcher nos efforts aujourd'hui en ayant le sentiment ou en donnant le sentiment que cette bataille est derrière nous serait dangereux pour la situation sanitaire de notre pays et donc pour la sécurité des Français. Il nous appartient de poursuivre et de maintenir ses efforts.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui s'exprimait après le Conseil de défense et le Conseil des ministres et qui dit donc aux Français, en substance, qu'il ne faut pas s'emballer.
Et c'est vrai, Ève Roger, c'est vrai que cette échéance du 1er décembre, tout le monde l'attend, on espère pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Eh bien, en réalité, le gouvernement prépare les esprits à un retour très, très progressif. Hein.
Oui, prudence et progressivité, ce sont les deux mots d'ordre du gouvernement. Prudence, vous venez de l'entendre, progressivité, ça veut dire que la levée des restrictions va se faire par palier. Alors la première étape, c'est le 1er décembre, avec la réouverture des commerces non essentiels des centres-villes, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des rayons fermés aujourd'hui des grandes surfaces. Une lueur d'espoir aussi pour le monde sportif, les clubs pourraient rouvrir aussi ce jour-là pour accueillir les enfants, et puis les cérémonies reprendre dans les églises, les mosquées ou les synagogues. Ensuite, l'étape suivante, pour ne pas rouvrir les vannes d'un coup et risquer une nouvelle flambée des contaminations, le confinement pourrait être suivi d'un nouveau couvre-feu. C'est l'une des fameuses mesures de freinage chères au Premier ministre Jean Castex. Donc pas de réouverture, Isabelle, des bars et des restaurants. Enfin, reste le point d'interrogation autour des vacances de Noël. Il va y avoir des dérogations. Toute la difficulté de placer le curseur, est-ce que les déplacements se feront sans attestation ou avec un nouveau motif qui pourrait s'appeler le miracle de Noël. Les dîners en famille, c'est à 6 ou à 10. C'est bien là le casse-tête du gouvernement.
Le miracle de Noël. Merci Ève Roger, chef du service société d'Europe 1.
Et pour ajouter encore un peu plus de casse-tête à cette mission déconfinement progressif, cette déclaration surprenante cet après-midi du ministre de l'économie. Il faut, dit-il, décaler le Black Friday.
Ah oui, le Black Friday, vous savez, c'est cette opération promotionnelle qui fait bondir les ventes. Elle doit avoir lieu le 27 novembre au niveau mondial. Alors, est-ce qu'elle peut vraiment être décalée, Carole Ferry ? Est-ce que les distributeurs sont prêts à jouer le jeu ?
Alors écoutez, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, hein. Bruno Le Maire a pris tout le monde de court ce soir, donc ce qui va se passer, c'est que toutes les enseignes vont maintenant se réunir et discuter. Légalement, le ministre de l'économie n'a aucun moyen de pression, c'est une opération privée de promotion, ce n'est pas comme les soldes qui sont encadrés par l'État. Par contre, ce qui est dans la balance, c'est la réouverture des commerces physiques. Vous savez que le Premier ministre a parlé d'une éventuelle rouverture le 1er décembre, mais depuis il y a un énorme forcing pour ouvrir dès le vendredi 27 novembre, parce que c'est un week-end de vente en plus, mais surtout parce que c'est le Black Friday. Le Black Friday qui a rapporté l'an dernier 6 milliards d'euros, 1 milliard en ligne, 5 milliards dans les magasins physiques. Et ce qu'on me confie dans les coulisses du gouvernement, eh bien c'est que les autorités sanitaires seront, disons, plus sereines pour ouvrir les magasins le 27 s'il n'y a pas en plus une gigantesque opération promotionnelle qui nous pousse tous à nous ruer dans les magasins. Dans tous les cas, il s'agit bien d'un report du Black Friday et non pas d'une annulation.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Une information qui va faire parler. Dans l'Orne, un rassemblement religieux provoque une cascade de cas de coronavirus.
200 catholiques de l'ouest de la France réunis entre le 22 et le 25 octobre pour une retraite spirituelle au sanctuaire de Montclijon. La communauté de l'Emmanuel, l'organisateur du pèlerinage ainsi que le directeur du sanctuaire assurent que les gestes barrières ont été respectés. Mais cela n'a donc pas empêché la diffusion du virus au sein de ce groupe. La préfecture n'avait délivré, on le précise, aucune autorisation pour ce rassemblement.
Oui, ça fait penser évidemment au cluster de Mulhouse au début de la première vague. On y reviendra tout à l'heure dans votre journal de 19h.
Dans l'Oise, cette fois, la préfecture décide d'interdire la chasse dans deux communes du département à la suite de violations des règles sanitaires. Le week-end dernier, des repas organisés avec plusieurs personnes, l'alcool qui coule à flot, sans aucun respect des gestes barrières.
18h06, un coin de ciel bleu pour Boeing après 18 mois de cauchemar.
Le 737 MAX, qui était interdit de vol, vous le savez, à la suite de deux crashs qui avaient fait 346 morts, va donc pouvoir reprendre les airs. Aurélien Fleureau, le régulateur américain de l'aérien, a donné son feu vert.
Oui, c'est une étape cruciale pour Boeing. Elle était attendue depuis quelques semaines par les spécialistes du secteur aéronautique puisque des tests grandeur nature ont été réalisés, des modifications ont été apportées sur les avions cloués au sol et puis les équipages des compagnies aériennes américaines notamment ont été formés à cette nouvelle version du 737 MAX et donc cette autorisation de l'agence de l'aviation américaine va permettre de très vite reprendre les vols, explique Eric Schulz, président de SHZ Consulting et ancien directeur commercial d'Airbus.
À partir de là, un opérateur américain, donc prenons Southwest ou American Airlines, pourra revoler avec le MAX dans les jours qui viennent, à partir du moment où ils sont prêts. Aujourd'hui, toutes les données ont été partagées par la FAA et par toutes les grandes autorités tutelles. Alors pour l'Europe, c'est l'IASA, hein. IASA a récemment volé sur le 737 MAX modifié et a eu la possibilité de voir de visu toutes les modifications apportées à l'appareil.
Boeing va donc pouvoir commencer à tourner la page, même si dans l'esprit des futurs passagers, il pourrait y avoir une réticence à voler sur un 737 MAX. La question d'un changement de nom a même été sur la table. A priori, ce ne sera pas le cas. Une ficelle marketing pas suffisante, estiment les spécialistes du secteur, qui ne vaudrait pas de toute façon les validations apportées par les pilotes.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite du journal avec Isabelle Millet. On évoque cette nouvelle journée intense au procès de Jonathan Daval, accusé du meurtre de sa femme Alexia.
Après le père ce matin, c'est la mère de la jeune femme qui est venue témoigner cet après-midi à la barre. Elle aussi s'est adressée directement à son gendre avec une obsession, rétablir la mémoire de sa fille. Arthur Elbaché, vous avez suivi cette audience.
Et ce qu'a lu à la barre Isabelle, la mère d'Alexia, a sidéré la cour et tout le public dans la salle. Isabelle Fouillot ouvre une carte avec un grand cœur rouge, une lettre d'amour écrite par Alexia à Jonathan pour la Saint-Valentin il y a quelques années. Et on pense forcément à la scène du meurtre quand elle lit ceci. « Mon ami, mon amant, mon confident, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de tes bras qui me serrent contre toi. J'ai besoin de tes mains qui me couvrent de câlins, de tes yeux, de tes lèvres, de ton odeur, de ta voix. Si tu m'aimes, prends soin de moi, comble-moi. Je t'aime. » Dans le box, l'accusé ne regarde pas la mère d'Alexia. Il est penché, recroquevillé, il pleure. Plusieurs fois, Isabelle Fouillot s'adresse directement à lui. « Est-ce que ça, Jonathan, ce sont les paroles d'une personne hystérique, dominatrice ? Je ne supporte pas, depuis 3 ans, ce que tu t'acharnes à faire. Jonathan, pourquoi toutes ces horreurs ?» Puis, Isabelle Fouillot partage avec la cour ce qu'elle appelle ses deux hypothèses. « Je pense qu'Alexia en avait marre de la situation. Elle voulait un enfant, elle voyait bien que tu ne t'impliquais pas. Chez les gens raisonnables, dit-elle, on divorce. Alexia avait sans doute mis les points sur les i pour que tu partes ou pour qu'elle parte. Deuxième hypothèse, tu ne veux pas d'enfant parce que l'enfant, c'est toi. Je voudrais, implore l'ex-belle-mère en larmes, que tu prennes tes responsabilités, que tu sois un homme une fois dans ta vie. Tu as tout détruit. Si tu veux sortir grandi de cette histoire, si tu veux te regarder dans une glace, je voudrais juste avoir la vérité.
Arthur Mbaché qui suit pour Europe 1 ce procès.
Ce mercredi 18 novembre marque le lancement de la 5G en France.
Oui, ce réseau mobile de nouvelle génération qui est officiellement donc activé, mais inutile de vous précipiter sur votre téléphone pour vérifier s'il la capte. Il va falloir patienter encore un petit peu.
Les sports et les Bleus du foot qui ont battu hier la Suède 4-2, ça fait du bien et ça rassure, et qui sont donc qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations.
Alors, pour la suite, rendez-vous en 2021 avec en ligne de mire Cyril de la Morinerie, l'Euro, bien sûr, l'Euro dont ils seront les grands favoris au vu de leurs derniers résultats.
Oui, battre le Portugal champion d'Europe et la Croatie vice-championne du monde avec la manière, ce n'est pas rien. Quand il y a de l'enjeu, l'équipe de France se remet en mode Coupe du Monde. Didier Deschamps peut s'appuyer sur ses leaders. Il a pu tester de nouvelles formules, relancer Adrien Rabiot, devenu indispensable au milieu, envoyer un message à Olivier Giroud, qui devra malgré son doublé hier soir retrouver rapidement du temps de jeu en club, et lancer des nouveaux la pépite Eduardo Camavinga et le fils de Lilian Thuram, Marcus, 23 ans, qui a marqué des points, confirme Didier Deschamps.
C'est jamais évident quand on vient pour la première fois. Plus les matchs sont de haut niveau, plus il les aime. Il a eu du temps de jeu. Il a fait voir ce qu'il est capable de faire avec le ballon, dans sa capacité à percuter. Et Marcus a fait de bonnes choses avec nous.
En tout cas, le sélectionneur aura du choix pour constituer sa liste de 23 et peut donc rêver de réaliser le doublé Coupe du Monde Euro comme il l'avait fait en tant que joueur. En juin prochain, la France sera la nation à battre. Les Bleus retrouveront en phase de groupe de l'Euro le Portugal, l'Allemagne qui vient de se faire étrier 6-0 par l'Espagne et la Hongrie. Mais avant cela, il y aura des matchs de qualification pour la Coupe 2022 dès le mois de mars.
Et on suivra ça avec vous. Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
A tout à l'heure Isabelle pour le rappel des titres à 18h30 et à 19h pour l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint en studio. Attention au vent demain, ça va souffler fort.
Oui, le temps change effectivement. Demain, nous avons beaucoup plus de nuages et d'averses. C'est le passage de la perturbation. La perturbation qui est actuellement sur la Bretagne, elle avance demain. Et au passage de cette perturbation, dans le sud, sur le Roussillon, la vallée du Rhône, le Mistral et la Tramontane se lèvent demain après-midi avec des rafales jusqu'à 100 km/h. C'est dans le sud-ouest et notamment sur le Cap Béar qu'on attend les plus grosses rafales, 130 à 150 km/h. Prudence, l'île de Beauté, hein, la Corse est aussi concernée par ces rafales de vent. Dans le ciel, demain, le temps évolue, je vous le disais, avec cette perturbation qui avance. Donc demain, des Pyrénées au Grand Est, le ciel est couvert avec des pluies. Dans l'après-midi, les éclaircies gagnent du terrain. Quelques petites pluies sur les Pyrénées, de la neige sur les Alpes et puis des températures en baisse. Nous aurons des gelées blanches dans l'arrière-pays provençal demain matin. 1 degré à Manosque, 6 à Lyon, 8 à Paris et puis dans l'après-midi, 10 à 21 degrés, 10 à Aurillac, 12 à Paris et 21 à Toulon.
Ça sent Noël.
Oui, on se rapproche. Ouais, des fêtes.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h17, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir Amélie Montchalin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer évidemment la crise du Covid et ses conséquences pour la fonction publique, d'abord question sur ce projet de lutte contre le séparatisme islamiste. Comment concrètement allez-vous lutter au sein de la fonction publique contre l'entrisme dans les services publics, dans les prisons, les hôpitaux, les lignes de transport également, dans le milieu du sport aussi, qui sont parfois noyautées, c'est vrai, par des islamistes. Qu'est-ce qui va vous permettre demain, avec ce projet de loi, d'en reprendre le contrôle ?
Vous savez, ce projet de loi, d'abord, il va surtout nous permettre, il y a ces sujets-là, mais il y a surtout la protection des agents publics face notamment à des usagers qui, au nom de leurs convictions, mettent en danger la République parce qu'ils mettent en danger les agents publics.
Oui.
Les agents publics, c'est eux qui font vivre la République très concrètement, chaque jour, dans tous les guichets, dans tous les services publics. Il y a bien sûr nos enseignants, mais il y a aussi tous les agents publics d'une certaine manière. Ils incarnent la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. L'obligation de neutralité s'applique d'abord à eux. Et donc, il y a 15 jours, avant même ce texte, nous avons pris avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti une circulaire d'application immédiate après l'assassinat de Samuel Paty pour nous assurer que tous les agents publics sont réellement protégés. On avait des règles qui n'avaient pas bougé depuis 30 ans sur cette protection, qui ne prenaient par exemple pas en compte l'existence de menaces sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'agents publics sont vilipendé sur ses réseaux. Mmh. Et donc, on doit non seulement signaler au procureur pour que la justice se mette en marche, mmh. il faut qu'on signale à Pharos, mmh. il faut qu'ensuite on puisse mettre les forces de l'ordre en action,
oui.
et surtout responsabiliser les employeurs publics qui ont le devoir absolu
oui.
de protéger Alors, tous les agents publics. Parce que ça, c'est d'abord un vrai problème du séparatisme.
On comprend cette protection contre la menace extérieure, mais pardon, j'insiste, Amélie Montchalin, on le sait, il y a une menace intérieure. Le député Éric Diard, auteur d'un rapport parlementaire en 2019 sur la question, a publié un ouvrage absolument édifiant, mettant en lumière les faiblesses, dit-il, des services publics face à la radicalisation. Alors, il décrit la réalité de cette radicalisation islamiste dans l'appareil d'État, que sont les prisons, le domaine des transports, le domaine du sport, je l'évoquais tout à l'heure. Il dit « La radicalisation n'est pas un motif de révocation. Les services publics, face à ce phénomène, sont confrontés à un angle mort juridique. Est-ce que ça, demain, ça va changer ?»
Alors, on a des mécanismes, notamment dans le cadre du projet, de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On a des dispositions pour pouvoir radier des personnes. Il y a une commission dédiée à radier des personnes qui, dans leur...
Sur quel critère ?
Sur le critère de la radicalisation, si les services de renseignement indiquent que ce n'est pas dans leur travail que cela pose problème, mais par d'autres indices, et que notamment quand ils sont dépositaires de l'autorité publique, quand ils sont au contact du public, on puisse prendre des mesures. Sur ce sujet, on a un enjeu d'abord de formation. Cette société de vigilance qu'appelait le président de la République, elle demande à ce que chacun ait les bons réflexes. Puisse aussi savoir à qui signaler le comportement de tel ou tel qui ne oui. correspondrait pas à nos principes. Et donc avec Marlène Schiappa, avec notamment le secrétariat général pour la lutte contre la délinquance et la radicalisation, on va former beaucoup plus systématiquement. Et il y a un moment clé, charnière, qui est le recrutement. Au moment du recrutement, il faut qu'on s'assure que chacun connaît bien ses droits, ses devoirs, ses obligations, connaît bien aussi ce rôle un peu particulier qu'est d'être agent public. Oui. C'est pas un métier comme un autre.
Oui.
On incarne, bien sûr, d'abord la République.
Mais
ensuite,
demain,
on
ça
rend
sera
service.
Plus facile de radier un individu partie prenante d'un
Ce
service
qui sera
public,
déjà,
quel qu'il soit, qui est radicalisé.
Alors, yes, aujourd'hui, on a un mécanisme, il faut qu'on l'évalue et potentiellement on le fasse évoluer. Mais il y a surtout, il faut qu'on puisse signaler.
Oui.
Aujourd'hui, l'angle mort principal, c'est qu'il y a peut-être des éléments que certains collègues peuvent avoir observés. Et aujourd'hui, on n'a pas totalement organisé notre État, nos administrations, pour que ces faits soient identifiés.
Et ça, demain, ce sera le cas ?
Ça, j'y travaille. Je n'ai pas besoin de loi pour le faire.
Oui, oui.
On a tout l'arsenal juridique, mais comme souvent, il y a la loi et son application.
Oui.
Et sur ces sujets-là, comme l'avait dit le président de la République après les actes horribles qui s'étaient passés à la préfecture de police, la société de vigilance, c'est une société où chacun connaît les droits et les devoirs, les systèmes Bien. Et le signalement. Vous savez, aujourd'hui, on peut signaler des actes de harcèlement, des violences sexistes. Il faut qu'on puisse signaler aussi bien, aussi facilement, des atteintes à la laïcité ou des menaces qui viennent d'usagers qui, au nom de leur religion, leur conviction, feraient pression Bien. Sur un agent public.
Alors,
et cette neutralité dont vous parlez,
oui.
enfin, c'est très important, ce projet de loi sur le séparatisme l'étend à tous les délégataires de services publics,
oui.
c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires,
mais qui ont
un rôle de service public.
Oui. Alors, sur la crise sanitaire, Amélie de Montchalin, un nouveau conseil de défense s'est donc tenu ce matin autour du président de la République. Vous y étiez, je crois. On sent depuis quelques jours qu'un reconfinement gradué se dessine pour le 1er décembre. Alors, sans trahir les secrets d'État, on sait que le chef de l'État risque de prendre la parole la semaine prochaine. Est-ce que vous le confirmez ?
Alors, moi, ce que je peux vous confirmer, c'est d'abord que les Français, depuis deux semaines, font beaucoup d'efforts, font beaucoup de sacrifices. Et on est
ça,
en train...
Mais ça, on le sait, pardon, on le
oui,
sait.
Oui, mais on est en
demain.
Train... Oui, mais attendez, avant de parler de demain, il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réussi à reprendre le contrôle sur le nombre de nouveaux cas par jour. Ça, c'est une première information. Maintenant, c'est une donnée fragile.
Oui.
Dans les hôpitaux, on a toujours un niveau record d'hospitalisation. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les hôpitaux que la semaine dernière.
Oui.
On en a eu plus en ce moment qu'au printemps.
Mais
et donc,
qu'un
on
allègement
est sur...
sera possible à partir du 1er décembre pour les petits commerces et puis pour la circulation aussi donc, des individus dans la
bien
perspective
sûr,
de Noël.
On travaille à regarder si des choses peuvent être adaptées. Mais la précondition pour qu'elles soient adaptées, c'est que les bonnes tendances qu'on observe depuis quelques jours se confirment.
Oui.
Et donc, il n'y a pas d'engagement en dehors de toute situation sanitaire, par évidence.
Oui.
Par ailleurs, on est bien conscient qu'aujourd'hui, si les choses s'améliorent, on ne peut pas revenir demain ou dans 15 jours à la vie d'avant.
Oui, on a vu les informations qui commencent à filtrer sur la possible mise en place d'un couvre-feu au moment du déconfinement.
On n'est pas dans le déconfinement général, malheureusement. On aimerait bien pouvoir se dire que ce virus a disparu. Il est parmi nous.
Le Premier ministre a admis hier en commission qu'on avait peut-être été trop vite, et lui le premier, sur la méthodologie de déconfinement.
Mais voyez, moi, mon rôle en tant que ministre de la fonction publique, c'est quoi ? C'est de reconnaître qu'effectivement, on demande aux Français beaucoup, on demande aux commerçants beaucoup, on demande aux entreprises beaucoup. En face, nous, l'État, on doit être exemplaire.
Oui.
On doit être à la hauteur de la situation. On doit avoir des services publics qui fonctionnent. On doit avoir des guichets qui sont ouverts. Contrairement au printemps, c'est le cas aujourd'hui. 97% des guichets publics sont ouverts. Les agents travaillent
la CAF, Pôle emploi.
Majoritairement, et ils travaillent avec quatre objectifs.
Oui.
D'abord, on protège chacun.
Oui.
On contribue par le télétravail, on contribue par les protections sanitaires à ce que le virus ne se diffuse pas. Deuxième objectif, on maintient nos guichets ouverts pour toutes les situations d'urgence. On prend des rendez-vous, on s'organise différemment pour maintenir ce lien.
Oui.
Troisième engagement, c'est les délais. On ne prend pas de retard dans la période. Et enfin, et c'est pour moi le plus essentiel, parce que le confinement isole les plus fragiles, les plus précaires de notre société, tous nos grands services publics. Je pense à la CAF, à l'assurance maladie, à l'assurance vieillesse, au CROUS. Actuellement, appelle les personnes.
Oui, vous les accompagnez dans cette période difficile.
On appelle une personne par une personne, tous ceux qui sont fragilisés.
Vous évoquez la question du télétravail qui est capital pour les services publics, qui était mal outillé, hein, pour dire les choses. Des ordinateurs ont été commandés, des logiciels ont été mis en place. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien.
On a beaucoup appris.
Plus de 40% des agents de la fonction publique, hors éducation nationale, évidemment, sont aujourd'hui
en police aussi, parce qu'on a besoin de sur le terrain.
En télétravail, ça tombe sous le sens. Est-ce que demain, question simple, est-ce que demain, à partir du 1er janvier 2020, T1, est-ce qu'ils resteront en télétravail, tous ces agents ?
Évidemment.
Est-ce qu'ils ont vocation à rester en télétravail pour une longue durée ?
D'abord, on a vocation à être très vigilant sur le virus pendant longtemps. Et donc, il va falloir qu'on trouve une façon de vivre pérennement avec ces nouvelles règles.
Mais donc, la réponse est oui, pour parler
oui,
clairement.
Oui, on va continuer à faire du télétravail. Mais vous savez, le télétravail, c'est aussi un enjeu de confiance. La fonction publique, elle évolue très vite en ce moment, notamment dans sa culture interne. Parce qu'au printemps, le télétravail, c'était vu encore par beaucoup trop de managers publics comme quand en télétravail, on ne fait rien. Ce n'est pas le cas.
Oui.
Quand on télétravaille, on continue, d'ailleurs on le voit que ça marche très bien, à assurer le service public.
Oui.
Et donc moi, en tant que ministre, j'ai un engagement, c'est que cette culture de la confiance que le télétravail finalement permet ou illustre, on doit la poursuivre.
Oui.
On doit poursuivre d'être innovant dans notre manière d'assurer le service public. Et évidemment, les agents publics qui, dans le temps long, voudront continuer à télétravailler, il faut qu'on puisse leur donner accès à cette organisation du travail qui n'est pas contradictoire avec la continuité.
Un tout dernier mot. Il y a beaucoup d'agents de la fonction publique et de fonctionnaires qui nous écoutent, évidemment, ce soir. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est la question du salaire, du gel du point d'indice. Il est gelé depuis un certain nombre d'années. Il y a une manifestation, d'ailleurs, assez houleuse des éboueurs et des égouttiers. Ce sont des gens, et vous les mettez en valeur ce soir, et vous avez raison de le faire, que nous avons applaudi. Nous les avons applaudis le 14 juillet, par exemple. Après
parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont essentiels à notre vie collective et qu'aujourd'hui, on le voit, ils font tenir le pays.
Et où est l'effort du gouvernement pour les remercier de cet effort en termes de rémunération ?
Alors aujourd'hui, on a fait, avec les organisations syndicales, des progrès énormes pour les soignants, le Ségur, pour les jeunes enseignants, les accords qu'a présenté Jean-Michel Blanquer il y a quelques jours, pour les jeunes chercheurs. On a aussi fait, et ça c'est un engagement que j'ai pris,
mais il n'y aura pas de geste global.
Il y a beaucoup de situations qui, cette crise illustre, d'inégalité, notamment vis-à-vis des femmes.
Oui.
Dans la filière sociale, par exemple.
Donc vous faites du cas par cas. Non, mais
moi, je résous
question,
des inégalités criantes.
Oui.
Vous savez, l'augmentation généralisée, ça ne résout pas les inégalités.
Bien.
Ça n'aide pas ceux qui sont en bas de l'échelle, qui depuis des années, peut-être qu'ils ont eu des augmentations générales. Pour eux, c'est quelques euros. En haut de la pyramide, c'est beaucoup d'euros. Et donc, pour l'argent que ça représente, aujourd'hui, moi, je préfère qu'on cible les inégalités. Après, il y a des grands chantiers à mener, notamment pour la protection sociale complémentaire des agents publics. Vous savez, les gens dont vous me parlez, quand on travaille aujourd'hui dans la territoriale, dans les collectivités locales, avoir une protection sociale complémentaire pour sa santé, du mutuel en fait,
donc, du cas
c'est
par
des
cas.
Choses qu'il faut qu'on regarde là pour tous les agents. Moi, ce que j'essaye de vraiment combattre, c'est les inégalités
s'arrêter.
Et m'assurer que chaque euro d'argent public, il combat les inégalités, les situations criantes, et cette crise en a révélé, et on les résout une par une.
Bien, merci pour cette réponse un peu plus longue qu'attendue, mais c'est votre réponse, comme dirait l'autre. Merci Amélie de Montchalin d'avoir
été ce soir. Merci pour vous et merci pour les agents publics.
L'invité d'Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et nouveau conseil de défense aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron qui prendra la parole la semaine prochaine pour détailler les modalités du déconfinement qui cette fois sera très progressif. Le porte-parole du gouvernement parle d'une adaptation à partir du 1er décembre plutôt qu'un desserrement. Nous sommes encore très loin, dit-il, d'avoir gagné la guerre. Le ministre de l'économie demande lui aux distributeurs de décaler l'opération promotionnelle Black Friday prévue le 27 novembre afin que tous les commerces puissent y participer. Les parents d'Alexia Daval face aux meurtriers de leur fille. Ce matin, le père a demandé la peine maximale à l'encontre de son gendre, Jonathan. Cet après-midi, c'est la maman qui s'est exprimée pour défendre la mémoire de sa fille. Et puis, grande nouvelle pour Boeing, son 737 MAX impliqué dans plusieurs crashs, enfin autorisé à voler de nouveau.
Merci Isabelle, à tout à l'heure, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec une perturbation, Anissa, qui traverse demain la France.
Oui, c'est la perturbation que nous avions aujourd'hui sur la Bretagne. Eh bien, demain matin, elle s'étend des Pyrénées aux frontières suisses avec pas mal de nuages, quelques averses. Et puis au fil des heures, elle va disparaître, cette perturbation. Dans l'après-midi, nous aurons sur les Pyrénées et les Alpes encore quelques gouttes. Mais c'est surtout le vent qui nous intéresse ce soir et qui nous inquiète même demain à partir de la mi-journée, il va souffler fort dans le sud sur le Roussillon et le bassin méditerranéen jusqu'à 130 km/h, notamment sur le Cap Béar. Dans les Pyrénées orientales, les températures, elles baissent un petit peu demain avec 0 à 11 degrés le matin.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel. Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Et Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors, pour commencer, on s'intéresse avec vous sur ce projet de loi contre le séparatisme transmis par le gouvernement au président de l'Assemblée et du Sénat. Alors on sait désormais qu'il s'appellera officiellement projet de loi confortant les principes républicains, porté par Gérald Darmanin, par Éric Dupond-Moretti, avec de nouvelles mesures suite à l'attentat islamiste contre Samuel Paty, notamment sur les questions de haine en ligne. On écoute le ministre Darmanin.
Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir beaucoup mieux lutter contre l'islamisme politique. Alors, il y a deux grandes incriminations qui sont prévues dans ce texte avec le garde des Sceaux. La première, c'est la mise en danger de la vie d'autrui, et il n'y aura plus la possibilité de faire pression communautaire sur le service public. Des parents qui vont voir un enseignant pour leur dire « Vous arrêtez d'enseigner les caricatures, la liberté d'expression, demain ce sera une incrimination pénale. » Et un juge pourra dire, c'est extrêmement important, un juge pourra dire « Si vous êtes étranger, que vous êtes condamné à ce délit, vous pouvez quitter le territoire national. »
Voilà, Gérald Darmanin qui était ce matin l'invité de la matinale au micro d'Europe 1, évidemment. Vous avez aussi, dans le Figaro ce matin, interviewé conjointement Éric Dupond-Moretti et le ministre Darmanin. Vous connaissez évidemment parfaitement le projet de loi qui a été présenté il y a quelques semaines par le président de la République. Mais ça y est, là on connaît vraiment le détail, Guillaume Tabar. Il sera examiné en Conseil des ministres le 9 décembre prochain. Tout d'abord, est-ce que vous trouvez ce projet de loi équilibré?
En tout cas, il est complet, en tout cas complet par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans son fameux discours aux Mureaux. C'est vrai que ce soit sur les associations, à la fois leur statut, hein, vous savez, le fameux débat loi 1901, loi 1905, oui. Sur le financement, notamment le financement des cultes, sur l'enseignement. Bref, la palette est assez complète et assez conforme à ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Ajoutez à cela toutes les mesures qui ont été prises à la suite, on vient d'entendre Gérald Darmanin, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. D'ailleurs, sur ce point, bien sûr, on ne peut que se réjouir qu'il y ait ces nouvelles incriminations, mais si un texte doit à chaque fois s'enrichir au gré d'un nouvel épisode, c'est signe que peut-être que dans sa conception, il y avait déjà un trou dans la raquette et qu'il a fallu le
oui,
combler.
Oui, car le texte, Guillaume Tabar, crée un délit réprimant la haine en ligne et des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'État ou des élus. Et un pôle de magistrats, nous dit-on, spécialement dédié à la lutte contre la haine en ligne, sera créé. Louis Dragnel, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui finalement existait déjà dans les textes de loi?
Alors, en fait, oui, ça existait déjà, mais l'idée, par exemple, sur la question des magistrats spécialisés, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a des magistrats qui ne font que ça. Vous savez, c'est comme le parquet national antiterroriste. Avant, il y avait bien sûr des magistrats qui s'occupaient d'affaires terroristes, mais le gouvernement avait décidé justement de mettre une équipe de magistrats spécifiquement sur ce sujet-là. Et en fait, ce que ça veut dire, si on dézoome un peu sur le sujet, c'est que le gouvernement a fait le diagnostic suivant, qui est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y avait rien entre le droit commun et le droit antiterroriste. Et en fait, il a fallu trouver une espèce de troisième voie pour chercher en fait à trouver des moyens de pénaliser, de sanctionner des personnes qui n'ont pas commis d'actes terroristes, qui par exemple publient des vidéos qui incitent à la haine en ligne, mais qui ne sont pas forcément un acte, une incitation à tuer.
Oui.
Et l'idée, voilà, c'était de trouver un peu cette troisième voie qu'on n'arrivait pas très bien à qualifier. Et en fait, ça concerne essentiellement aussi les agitateurs.
Mais ça pose quand
ils
même...
sont quand même très influents sur Internet et les réseaux sociaux.
Ça pose quand même, Michel Cotta, la grande question de la mise en application de ces mesures. Parce que là, il va falloir mettre d'accord tous les réseaux sociaux, les géants d'Internet, et on sait à quel point c'est compliqué.
C'est-à-dire, c'est vraiment le point sur lequel on peut se poser des questions. C'est vrai que c'est dans cette loi telle qu'elle est présentée, essentiellement, d'abord, c'est une loi contre l'islamisme radical. Hein. Alors, on s'abrite derrière les principes républicains, mais c'est l'islamisme radical.
Oui.
Alors après,
c'est quand même... peut-être plus simple de le dire clairement dans le titre.
Après, c'est des usines. Non,
je crois que c'est pour une question constitutionnelle. Mmh.
Oui, c'est obligation d'égalité dans la loi. Donc, bon. Mais on voit bien que sur les points importants, c'est des usines à gaz qu'il faut monter. C'est-à-dire comment repérer à longueur de gens, à longueur de temps, les mails qui appellent à la haine. Bon, ça, c'est d'abord un premier problème, c'est la réalisation.
Sur l'obligation de l'école à partir de 3 ans, voilà. Là, par exemple, les choses sont claires. Ça, c'est facile à mettre en application.
Mais, par exemple, l'application sur l'anonymat n'est pas passée dans cette loi. Et je pense qu'un amendement, quand même, devrait ajouter ça. Deuxièmement... l'école, faire un format national, un fichier national de tous les enfants, ça va pas être si facile. Hein, à partir de 6 mois, être si facile. C'est des gros trucs à mettre
en
œuvre.
Et en même temps, s'ils n'avaient rien fait, on aurait dit ils n'ont rien fait. Voilà.
Voilà.
Donc,
non, mais justement.
Existe,
et puis, enfin, c'est sûr. À l'école, peut-être que les gens n'oseront pas, de toute façon, même avec cette loi. Peut-être que les professeurs instruits par ce qui est malheureusement arrivé à leurs collègues, reculeront devant
En tout cas, il y a un contexte pour tenter de libérer la parole. On continue d'en parler dans quelques secondes. 18h38, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, avec toujours le débat des grandes voix du mercredi. Michel Cotta, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. On parle donc de ce projet de loi qui, ça y est, a été présenté contre le séparatisme. C'est le ministre Darmanin et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui l'a présenté. On connaît donc le détail des mesures. Alors, on évoquait les trous dans la raquette, Guillaume Tabar, de ce projet de loi. Et c'est vrai qu'il y en a un. Je l'évoquais à l'instant avec Amélie Montchalin, juste avant vous, qui est donc la ministre en charge de la fonction publique. Eh bien, on sait aujourd'hui que les services publics, par exemple, sont noyautés par les islamistes dans le sport, dans certaines lignes de transport, dans les prisons. On sait que c'est un vrai sujet. Eh bien, figurez-vous que je lui ai posé la question, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de sortir d'un service public un individu radicalisé s'il n'a rien fait qui tombe sous le coup de la loi? La réponse est non. Voilà, la réponse est non.
Oui, et on se souvient même de la ministre des Sports qui avait été jusqu'à dire que non, pas du tout, il n'y avait aucun signe de radicalisation dans le sport, alors qu'on sait que c'est une des portes d'entrée.
D'où ma question, au-delà de l'affichage politique, parce qu'on sent bien que l'exécutif devait agir face à l'opinion publique, la sécurité, cette question d'entrisme religieux est devenue une préoccupation importante des Français, mais est-ce que c'est du cosmétique ou ça peut vraiment changer les choses?
À la fois, il faut une loi, parce que on ne peut pas accuser sans fin un gouvernement de rester les bras ballants. Là, pour une fois, il y a un texte qui essaye d'aborder le plus grand nombre de questions possibles. On peut dire qu'il y a des angles morts. On peut penser, par exemple, que la question de l'immigration est un angle mort de ce texte qui n'est pas du tout abordé. La preuve, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même a refait ensuite un déplacement au col du Pertuis pour dire... À la frontière espagnole. Pour dire que, bien sûr, il ne fallait pas assimiler immigration à terrorisme, et ça, évidemment. Mais qu'en même temps, il fallait se rendre compte que l'arrivée sur le territoire français d'un certain nombre de gens qui profitaient de vagues migratoires pour préparer aussi des attentats terroristes, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Ça, c'est aussi une réalité importante. Et il y a aussi une sociologie d'un certain nombre de quartiers qui entretient ce terreau-là.
Ouais.
Donc, c'est pas quelques dispositions juridiques nouvelles qui vont changer radicalement la face de la société. Mais en même temps, il faut bien prendre la question par un bout. Et c'est vrai qu'il faut des outils juridiques. Et au moins, ce texte les apporte.
Alors, est-ce que politiquement, ce projet de loi va devenir l'un des éléments clés du quinquennat Macron? parce que c'est vrai qu'on était plutôt parti avant la crise sanitaire sur un angle économique, sur un angle de relance économique à l'issue du premier confinement. Est-ce que ça va devenir le régalien, l'élément clé de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Alors très vraisemblablement, après je ne suis pas devin, mais en tout cas ce qu'on peut constater, c'est, les services de renseignement le disent, c'est que des attentats, en fait, on va en subir malheureusement encore d'autres. Et donc forcément, le débat à chaque fois va revenir. Et on se rend bien compte aussi que l'opinion publique se durcit sur cette question-là. Donc, il y a fort à parier quand même que Emmanuel Macron est attendu au rendez-vous sur cette question-là. Et je reviens sur ce que disait Guillaume Tabar. Ce qui est important, bien sûr, que Emmanuel Macron était très attaqué au début de son quinquennat parce que c'était son point faible, en fait, oui. Le régalien. Et aujourd'hui, bon, il...
Et pardon, mais qu'il l'avait verbalisé. Il pensait que l'islamisme radical, c'était d'abord un problème économique.
Bien sûr.
Et social, oui.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ça rejoint la question, votre question du début. Souvenez-vous aussi au moment de l'attentat de la préfecture de police de Michael Harpon, on parlait des policiers radicalisés dans la police. La solution, vous savez ce que c'était ? C'était de leur retirer leur arme. Vous vous rendez compte ? Non, mais réellement, c'était ça la préconisation. Ouais. Et c'est ce qui avait été fait. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la prise de conscience pour Emmanuel Macron. Ce qu'il veut, c'est que l'opinion publique soit consciente de tout ça et soit consciente également que l'islam politique, en fait, se love dans notre droit. En fait, et paradoxalement, en fait, l'islam politique profite de notre état de droit pour précisément s'introduire dans les services publics, s'introduire au sein de la société. Et ensuite, on se rend compte qu'on est complètement coincé. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que le débat n'est absolument pas terminé, même sur le plan juridique. Et il risque d'y avoir des passes d'armes assez tendues, même avec le Conseil constitutionnel.
Bien.
Qui est pas très clair en fait sur cette question.
Michel Cotard.
Je voudrais ajouter que pour répondre aussi à cette question d'infiltration, vous vous rappelez, le mot d'ordre a été pendant très longtemps la diversité, c'est-à-dire la diversité dans tous les services de l'État. Et au fond, c'est par ce biais-là évidemment que sont entrés un certain nombre de radicaux. Alors la ministre vous disait tout à l'heure, il faut voir ça à l'embauche.
Oui.
Bon, mais si c'était si visible, et si on pouvait l'avoir, la certitude que quelqu'un n'est pas radicalisé après un entretien d'embauche, il n'y en aurait pas.
La stratégie de dissimulation,
le problème, c'est considérer le problème comme révolu, résolu.
Vous évoquiez un problème assez notable, Guillaume Tabar, ou en tout cas un choix lexical. Pourquoi ne pas avoir appelé les choses par leur nom et ne pas avoir donné à ce texte le nom de projet de loi contre le séparatisme?
Oui, alors, j'entends bien effectivement l'argument qu'un texte ne peut pas faire un traitement différent selon les communautés ou les catégories. C'est vrai, mais il n'empêche, d'abord, parler du séparatisme, en soi, ce n'était pas désigner quelqu'un en particulier, donc ça, on aurait pu contourner ça. Ensuite, il y a l'idée, et ça, le gouvernement l'assume, de dire qu'il fallait faire un texte positif. On est pour quelque chose, pas contre quelque chose. C'est vrai, mais en même temps, on le sait bien, défendre des principes en général, c'est malgré tout un peu noyer la spécificité d'un combat. Or, le propre du discours des Mureaux, c'était de désigner clairement, nommément, un ennemi.
Oui,
le langage de guerre, d'ennemi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Emmanuel Macron qui l'a employé. Bon. Et donc, vouloir une sémantique strictement positive, ça veut dire non, c'est pas, on n'est pas en guerre contre quelqu'un en particulier. Ben si, on est en guerre contre un ennemi précis. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que le texte aborde de front cette question. Les 57 articles, ils visent bien essentiellement l'islamisme radical.
Question complémentaire, Guillaume Tabar, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, qui sont à un moment été en confrontation, ouverte sur cette question de l'ensauvagement de la société. Enfin, il y avait ça et puis d'autres dossiers. Ouais. Là, ils semblent parler d'une seule voix. Ça y est, les violons sont accordés.
En tout cas, il y a un choix de communication très clair qui a été fait. On peut sourire, parce qu'il ne faut jamais être dupe des mises en scène gouvernementales. On sait bien d'abord, au-delà de la passe d'armes qui a eu lieu entre Darmanin et Dupond-Moretti sur cette question de l'ensauvagement, vous le rappelez, structurellement, l'intérieur et la justice, Beauvau et la place Vendôme, sont en opposition. Et donc là, l'idée, c'est de dire attention, ce n'est pas uniquement le ministre de l'Intérieur qui défend un texte répressif, c'est bien tout le gouvernement qui porte une réponse commune face à cette menace.
18h46, vous restez avec nous. On va parler de ce nouveau conseil de défense qui s'est tenu ce matin. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui va en ressortir, vous. Moi, pas tout à fait. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, le débat des grandes voix qui se poursuit avec toujours Michel Cotta, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Et on évoque ensemble à présent ce nouveau conseil de défense qui a donc eu lieu ce matin. Olivier Véran donnera d'ailleurs une conférence de presse demain soir, Jean Castex recevra les chefs de parti vendredi et la semaine prochaine, c'est Emmanuel Macron qui doit s'exprimer face aux Français. Alors se dirige-t-on vers un déconfinement gradué ? Là encore, l'exécutif a, semble-t-il, du mal à parler d'une seule voix. On écoute d'abord Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Je veux être très clair sur ce point. Il peut y avoir, et c'est ce qui est discuté en ce moment, réfléchi, travaillé, ce qui pourrait être annoncé le cas échéant, une adaptation du confinement à partir du 1er décembre ou des jours qui l'entourent. Mais nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On en est même loin. On parle d'une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre, si la situation sanitaire nous le permet.
Voilà, il y a beaucoup de si. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, comme disait l'autre. Alors, moi, j'ai encore un problème avec ces discours contradictoires de l'exécutif. Olivier Véran, par exemple, laissait entendre hier qu'une ouverture des commerces le 27 décembre, le 27 novembre pour le Black Friday, c'était exclu. Bruno Le Maire, la veille, nous disait « il faut le faire le plus vite possible avant le 1er décembre, si on peut ». On n'y comprend absolument plus rien, Guillaume Tabar.
Eh bien, écoutez, justement, j'évoquais cette question à midi avec un ministre qui disait « en fait, le seul dont la parole soit infaillible, c'est le président de la République ». Ce qu'il voulait dire par là, ça n'est pas qu'Emmanuel Macron ne se trompe pas, mais que c'était le seul dont la parole pouvait mettre un terme au débat interne entre les ministres.
Mais comment après 10 mois de crise, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour parler d'une même voix ?
Parce que c'est plus difficile qu'on croit, parce que chacun a ses intérêts quand même là-dedans. On voit très bien comment le ministre de l'économie il dit on reprend le plus vite possible et puis on fait le Black Friday.
Donc on se sert de l'opinion publique pour faire pression
sur l'exécutif. Non, on voit bien aussi comment on a dit la situation de la pandémie est quand même un peu difficile. On a dit ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, on s'est dit ça va beaucoup mieux. Bon, quand on voit le nombre de morts, on se dit que ça ne va pas tellement mieux.
Bah, alors, ça va quand même mieux. Le R0, voilà. Par exemple, a un niveau historiquement bas depuis juin. Il y a quand même des indicateurs qui sont positifs.
On a quand même vécu, je trouve, le mauvais déconfinement de la première période.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit Jean Castex hier en commission.
Mais il était en charge de ça. Il était en charge de ça. Mais,
c'est un aveu d'échec, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut y aller graduellement. C'est vrai qu'il faut y aller graduellement. Alors les gens sont pour un grade, aller graduellement plus vite ou d'autres plus lentement. Mais c'est vrai que ça s'est mal passé tellement après la première phase qu'on n'a pas envie que ça recommence.
Louis Dragnel.
La première chose, c'est que déjà, je pense que les gens l'ont compris, il n'y a pas besoin de le décrypter, mais c'est le gros bazar aussi au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont, il y a les ministres un peu politiques, un peu forts, qui veulent annoncer des bonnes nouvelles. Je pense typiquement à Olivier Véran, qui a voulu expliquer que la situation allait mieux, parce qu'en fait, il était quand même monsieur mauvaise nouvelle pendant beaucoup de mois.
Depuis le début,
il a envie de déscotcher un peu de cette image-là. Et donc, vous avez les ministres un peu forts, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Olivier Véran, qui essaye quand même politiquement d'exister. Et puis de l'autre côté, voilà, c'est un allègement du confinement, parce qu'en fait, ce n'est pas un déconfinement. C'est un allègement du confinement qui reste encore à mettre en musique.
Ça veut dire quoi, un allègement du confinement ?
Ça veut dire qu'en fait, les restrictions ne vont pas complètement tomber. Ça veut dire qu'en fait, on va continuer de devoir télécharger les attestations. Il y aura juste une case de plus qui pourra être cochée sur les attestations. C'est la possibilité d'acheter des biens dans des commerces essentiels.
Il y aura une case, la magie de Noël ou pas, Guillaume Tabar ?
On sent bien qu'ils ont bien compris, je pense, qu'ils ne pouvaient pas priver tout le monde de liberté au moment de Noël. Donc leur objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse fêter Noël le mieux possible. Bon.
C'est l'opération sauver Noël, en fait.
Et donc, voilà,
on a sauvé les vacances.
C'est dire sauver Noël, alors que c'est plutôt la fête de Noël qui elle-même signifie apporte un salut.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, oui, c'est que pour réussir cela, il faut ne pas aller trop vite dans le déconfinement. Oui, Michel a raison de dire que les choses ont été un peu vite. Alors,
on voulait réussir les vacances. Alors, si on réussit Noël autant qu'on a réussi les vacances, franchement, merci bien.
C'est vrai que ça demande du doigté, mais je veux dire que précisément, je pense que l'erreur initiale, c'était de croire qu'on pouvait confiner en bloc et déconfiner en bloc. Je veux dire que nous sommes ce que nous sommes, on est des êtres humains, il y a un rythme naturel de la vie. Je trouve un peu facile aussi de reporter sur les citoyens que nous sommes la responsabilité de ne pas avoir respecté le déconfinement.
Jean Castex, lors de son audition devant l'Assemblée,
il dit on a raté le déconfinement parce que les gens n'ont pas respecté les règles. Je trouve ça un tout petit peu fort de café quand même.
Il y a un autre sujet aussi que je trouve intéressant qui commence à émerger, et c'est Gabriel Attal qui est en train de le porter. D'ailleurs, demain, il fera un déplacement à la Croix-Rouge. C'est la question en fait, des externalités, des conséquences négatives du confinement sur la psychologie et la santé mentale des Français. Et
il y a des chiffres. Les chiffres ce matin, c'est absolument
catastrophique. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup le gouvernement. Et Gabriel Attal s'investit énormément sur ce sujet parce qu'au gouvernement, ils sont conscients qu'en fait, ça va être aussi. Ils essayent de voir un peu l'étape d'après. C'est-à-dire quels seront les grands sujets de préoccupation des Français. Et quand on voit les chiffres, un Français sur cinq qui souffre de dépression, et c'est une multiplication par deux depuis le confinement. Eh bien, ça, c'est des données quand même qui inquiètent énormément au gouvernement. C'est la raison pour laquelle le porte-parole s'investit sur ce sujet.
D'ailleurs, Louis Dragnel, c'est ce que disent beaucoup les petits commerçants et ceux qui militent pour un déconfinement plus rapide. C'est que tous ces chiffres sanitaires, ce sont les morts de demain. Ce ne seront pas les morts de l'immédiateté du Covid, mais ce seront les morts de demain.
Oui, et ça, il y a malgré tout, je trouve, c'est un peu délicat de le dire, mais un peu de responsabilité des autorités sanitaires lors de la première vague, ont eu ce discours exclusivement officiellement protéger des vies, mais pour eux, protéger des vies, c'était juste empêcher effectivement que le virus circule. On ne peut pas les blâmer, mais ils ont sans doute minoré l'impact non seulement psychologique, mais même physique. Il y a des morts et des morts concrètes qui seront aussi le fruit
des suicides.
Oui, vous avez raison, mais
de la solitude dans les EHPAD, ouais. etc.
Mais on sait très bien que si on réouvre les restaurants et les bars, c'est-à-dire l'endroit où tous les sondages montrent que c'est là qu'on s'infecte, on va sur une troisième vague.
Il faut trouver le bon équilibre. Et on aura peut-être un début de réponse demain avec la conférence de presse d'Olivier Véran. On suivra ça ensemble. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, vous restez avec nous dans quelques secondes le journal. Et puis comme chaque soir, le Club des idées avec deux invités ce soir. Mélissa Theuriau pour son documentaire événement contre la maltraitance des enfants. Et puis grand entretien avec François Bayrou. A tout de suite.
Europe 1.